Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise. Cube Radio.
Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode des Antipodes de la lutte. Pat Laprade, K.R., Kevin Raphaël.
Yo, je suis malade, man.
Comment ça, t'es malade?
Je suis comme un chien, man.
Well, comment ça?
Malade depuis hier, man. T'es cloué au lit hier, cloué au lit toute la journée.
Pas vrai?
Je suis sorti pour faire la lutte, je suis retourné au lit. Puis là, je me suis relevé, mange ma petite soupe, Leptine est là.
C'est ça, avoir des enfants, hein?
Je sais pas, mais ma tabarnak.
Hey, c'est la première émission, le premier antipode de l'année. On devait pas faire un show aujourd'hui, on devait pas faire un podcast parce que techniquement, ça aurait dû être le show de Laval qu'on diffuse aujourd'hui, mais il y a pas eu de show de Laval. Donc, on vous offre quand même, au moins, un antipode régulier, le premier de l'année. Sans, comme je te l'ai écrit en texto, Kev, sans bells and whistles, donc sans Fred. Fred est en vacances, les studios étaient pas disponibles, donc on se fait ça à la bonne franquette pour vous donner du contenu, alors que le premier vrai antipode avec toute la gang, Fred inclus, ça sera la semaine prochaine. Mais c'était quand même important d'en faire un parce qu'il y a quand même eu beaucoup d'actualités dans le temps des fêtes, mon Kev. Et là, évidemment, je te cède la parole au moment où tu décides d'enlever tes écouteurs, c'est très, très drôle. Il y a eu beaucoup d'actualités, Kev, durant le temps des fêtes.
Je pense que c'est temps de rentrer dedans, là. Allons-y.
Ben, exact. Hey, juste, peut-être juste une petite annonce. Oubliez pas de vous abonner à notre Keybook. On vous a donné sur le Patreon, bien sûr. On vous a donné deux shows à la fin de l'année. Un sur Aaron Claw, la griffe de fer, le film sur la famille.
Qui marche très bien en ce moment.
Le film inspiré. Et le mot est important, inspiré de la tragédie entourant la famille d'Evan Eric, et un autre sur les dessous du house show, du spectacle non télévisé de Laval. Donc, je pense deux keybooks qui ont été bien appréciés, puis évidemment, on va vous en donner plus durant le mois et les semaines qui vont venir. Sans restriction, t'étais-tu en congé durant le temps des fêtes?
Ouais, on a toujours les sans restriction football qui marchent extrêmement bien, by the way. Merci
à tout le monde. T'as battu mon ami Jason en demi-finale de ton pool, de ton fantasy football.
Ouais, puis je suis allé perdre la finale par 3 points.
Ah, pour vrai? Colin.
Tough. Notre podcast football marche extrêmement bien avec les frères Harry Limanan. On a des belles choses qui s'en viennent à partir du 8 janvier. On va pouvoir aller en studio avec les boys. On a un photoshoot qui s'en vient la semaine d'après. Fait qu'il y a beaucoup de contenu sans restriction qui s'en viennent, qui va pas juste être le podcast en tant que tel, mais on veut devenir une plateforme sportive, mais pas sportive vieille, plate, sans créativité. Nous, on veut vraiment frapper la talle des gens sur les réseaux sociaux qui veulent du contenu, mais qui sont pas capables d'en avoir par les gros joueurs. Donc, nous, on va leur donner. Puis, c'est ça, man. Donc, continuez à vous abonner à sa restriction. Sa restriction de luxe commence, je pense, 3e semaine de janvier, si je me trompe pas. Notre nouvelle série de sa restriction de luxe. Puis, j'ai une couple de podcasts avec des gars de la Ligue nationale, dont un avec l'amoureux aussi, donc qui s'en vient. Donc, restez à l'affût sans restriction. On a du good qui s'en vient.
Puis, ta nouvelle plateforme, ça se pourrait-tu aussi que je sois impliqué bientôt là-dessus?
Ben, t'es mieux, c'est-tu?
J'ai hâte de pouvoir en parler davantage. Hey, on va aller directement avec les nouvelles. Puis, il faut commencer, Kev, avec la grosse nouvelle qui est arrivée pas plus tard que lundi. Le Rock de retour à Raw et qui tease un match avec Roman Reigns. Dans les choses que je m'attendais pas, ça, c'est peut-être vraiment au top de ma liste.
Mais moi, je vais pas dire que je m'en attendais pas, parce que, tu sais, quand il avait parlé sur le podcast à Pat McAfee, tu sais, j'avais dit, tu parles pas d'un match qui a pas eu lieu, mais que t'aurais voulu qu'il ait lieu de même. Donc, j'étais pas surpris qu'il tease Roman, parce que c'est le money match, c'est le big match. Maintenant, comme on s'en est parlé tantôt pendant qu'on faisait la lutte, moi, je pense que ça va être en Australie.
Moi, je suis pas d'accord du tout avec ça.
Dans les KPI du pays pour amener le show, il y avait la présence de The Rock. Donc, est-ce qu'on profite de ça pour amener The Rock, faire un match contre Roman Reigns? Roman Reigns va over The Rock, va over Randy à Royal Rumble. Après ça, perd contre Cody. Cody peut pas être plus hot que ça. Donc, ça, c'est une option. Après ça, c'est sûr, l'option Roman contre The Rock à WrestleMania.
Moi, je pense que c'est là-dessus. Tu ramènes pas The Rock après toutes ces années-là pour le mettre contre Roman en Australie.
C'est quand même un venue de 70 000 personnes. C'est pas genre rien. Là.
Je le comprends, mais c'est pas le brand WrestleMania où a fait des finales, où le Rock va être associé. Je vois pas.
Mais ils n'ont pas besoin de Rock à WrestleMania. Moi, si je suis WWE, j'en profite pour mettre over Cody à WrestleMania, mettre over Mistard d'aujourd'hui, donner un gros win à Roman Reigns à Elimination Chamber, donner un gros win contre Randy à Royal Rumble, envoyer Roman très hot à WrestleMania, puis Cody finit son histoire, man.
Ouais, moi je vais te dire ce que je pense de cette situation là. Moi, il y a deux choses possibles, une qui me plaît un peu moins que l'autre. La première, c'est que Roman pourrait affronter The Rock et Cody à WrestleMania. C'est-à-dire qu'il pourrait affronter The Rock le premier soir, le gagnant affronte Cody le lendemain.
Ils feront pas
ça. Toi tu vas me dire non, mais je dis pas qu'ils vont faire ça. Je dis juste que c'est une option.
Mais je trouve pas que c'est une bonne idée.
Je dis pas que c'est une bonne idée, je te dis juste que c'est une option, puis c'est pas ma préférée. Moi, je pense, parce que Bertrand Hébert nous a dit quelque chose, c'est-tu aux antipodes, c'est-tu dans Les Pots et les Fleurs que Bertrand a dit ça, ou lorsque je l'ai interviewé à la radio, mais il a dit quelque chose, sur le coup, j'y croyais pas, et là, le retour du Rock me fait penser que c'est peut-être vrai. Triple H, mon Dieu, je sais pas pourquoi j'ai dit Triple H. Roman est présentement là en règne de, je crois, là, c'est ça que j'essaie de trouver comme information pendant que je te parle, mais je pense que c'est 1200 jours de règne, ou à peu près, OK? Alors qu'il y a un certain Hulk Hogan qui, lui, en ce moment, là, son plus long règne, donc, ce qui pourrait être considéré comme le plus long règne moderne, il est à 1474 jours. Faut que Roman passe Mania pour éventuellement vouloir dépasser Hulk Hogan et ce règne-là. Alors, moi, je pense qu'on va envoyer Roman contre The Rock à Mania. Roman va gagner. Puis Cody, ça se fera pas à Mania. Ça va peut-être se faire à SummerSlam. Ça va peut-être se faire à Mania l'autre année d'après.
T'étires la sauce, là. T'étires
la sauce. Je suis pleinement d'accord, mais j'ai l'impression.
Déjà après un an, là, t'étirais la sauce. Là, tu sais, qu'est-ce qui va arriver, là? Tu sais, CM Punk est arrivé, ça brouille les cartes. C'est sûr, c'est certain que CM Punk, ça brouille les cartes, là. Et il arrive, c'est sûr, tu l'envoies contre Seth Rollins premier soir. Main event. Après ça, ben, là, t'sais, moi, je verrais plus Brock Lesnar contre The Rock, mettons, là, à WrestleMania, que, tu sais, garde Cody avec Roman à WrestleMania Main Event, garde Seth avec Punk, puis envoie, tu sais, Brock, faut qu'il soit à Mania, Brock. On sait, faut qu'il soit là. Fait qu'envoie Brock contre The Rock, ou, mon idée folle, mais c'est le match qui ferait jaser Hollywood, The Rock contre Logan Paul, ça serait incroyable.
Ça, j'avoue, oui, t'as raison. Mais, comme je te dis, moi, j'ai l'impression, tu vois, Roman est à 253 jours d'Hogan. Ça, c'est 8 mois et des poussières.
Mais tu sais, il n'en parle jamais du règne d'Hogan. Tu sais, d'habitude, il nous en parlerait un peu, tu sais.
Oui, mais là, on commence l'année. Là. Roman n'a pas été là depuis un mois et demi. Il savait peut-être pas à ce moment-là que The Rock s'en venait. Il savait peut-être pas à ce moment-là où
non,
il
avait moi, je pense pas... que. Je pense qu'on sait depuis longtemps que The Rock s'en vient. Là. The Rock a fait des horaires compliqués. Là.
Au contraire, moi, je pense que c'est récent qu'ils le savent parce que, justement, à cause de l'horaire compliqué de The Rock, il y a un mois et demi, peut-être, The Rock pouvait pas se compromettre. Alors que là, peut-être il y a deux semaines, trois semaines, peut-être qu'il a dit, regarde, finalement, mon horaire va être bon pour ça. Et c'est dans 8 mois. 8 mois, ça nous amène au mois d'août. Ça pourrait nous amener dans le coin de SummerSlam.
Ouais, mais moi, je pense que Cody doit finir son histoire à WrestleMania parce que les gens vont juste cette année.
Ben, peut-être que finalement, Cody la finira jamais, son histoire.
Mais s'il la finira jamais, mais je sais pas, c'est pas un babyface. Moi, je pense qu'ils vont le perdre comme babyface s'il finit pas son histoire.
En tout cas, clairement, il y a des options pour Roman alors qu'il y a 3 mois, dans notre tête, c'était clair qu'il s'en allait contre Cody. Et là, ben, Punk revient, le Rock revient. C'est sûr que ça va être probablement, si tout ce monde-là est là, le plus gros WrestleMania depuis longtemps. Puis c'est WrestleMania 40, c'est un beau chevron, c'est un beau moment pour le faire.
Puis je rajoute Randy Orton qui revient, qui va avoir une position quand même importante à WrestleMania.
Logan Paul, Brock Lesnar, Seth Kevin Rollins. Owens.
Ouais. Tu sais, ils ont jamais eu autant de goods à WWE là, depuis les années fin 90, début 2000. Là.
C'est effectivement. Puis, tu sais, on n'est jamais à l'abri d'un retour de John Cena non plus. Là.
Ça m'étonnerait pas que John Cena revienne pour un match à WrestleMania.
Tiens.
Puis après il y a du monde de AEW au bord là, que les contrats finissent.
Il y en a un peu moins, ça, par contre.
Ben, il y a quand même...
Des gros noms, il y en a un peu moins.
On sait pas si MJF est signé ou pas, là.
Ben, comme on en a parlé aux antipodes, Kev, selon toute vraisemblance, il aurait signé. Du côté de la WWE...
Lui, il a dit en entrevue qu'il avait pas signé.
Ben, y a-tu dit qu'il a pas signé ou il est resté flou par rapport à sa réponse?
Non, il a dit clairement qu'il a pas signé sur son media tour de Long Island.
Ouais, moi, tu vois, j'ai pas lu ça. Donc... Je suis pas sûr si s'il a signé ou pas, mais
on sait pas s'il a signé, fait que ça se peut qu'il ait pas signé. Fait que puis il a été très clair dans, comme je t'ai dit, dans son média, il a dit qu'il a pas signé de nouveau contrat avec AEW.
Ouais, je lis ça au même moment, j'ai pris off durant le temps des fêtes, hein, donc j'avoue ça m'avait échappé. Mais en même temps, c'est MJF.
T'sais, oui, ça pour ça, mais dans le sens qu'on peut pas prendre pour acquis qu'il a signé.
Non, je comprends, mais
puis
j'ai
en
comme
plus pas... là, il est blessé à l'épaule, tu sais comme.
Mais j'ai comme pas l'impression que avant WrestleMania, c'est là que ça va se donner pour MJF.
On en tout cas, pas,
dans tous les cas, ça risque d'être un très très gros WrestleMania. Il y a beaucoup de bonnes options, puis j'ai confiance que Triple H va prendre les meilleurs possibles.
Tu sais, rajoute Naomi, rajoute possiblement Sasha Banks.
On va en parler tantôt. Sasha, ça risque moins de se donner. Mais en bout de ligne, moi, je pense que The Rock et Roman, si c'est pas WrestleMania, il manque quelque chose. À mon humble opinion, je comprends ton point de l'Australie. Mais j'aurais de la misère à penser que tu donnes ce match-là en Australie. Mais bon,
au contraire, là, c'est comme quand en Arabie Saoudite, ils ont des matchs avec des gros noms. Le pays achète le show. Fait que ça se peut là, quand le pays décide, moi je vais te donner temps pour avoir The Rock, arrange-toi. T'sais.
C'est sûr. Ça, c'est sûr. Ça coûte plus cher, par exemple.
Ça coûte plus cher, mais WWE, ils sont contents. Là. Ah, Australie, c'est game changer là, si The Rock est sur la carte. Là.
Ça, c'est sûr. Ça, c'est officiel que si The Rock est sur la carte en Australie, tu passes...
Non seulement
pour l'Australie...
Je sais pas combien
de billets, mais tu vends beaucoup plus de milliers de billets que peu importe le nombre de billets qu'ils auraient vendus.
Puis après ça, Peacock. Tu vas avoir plus d'abonnés sur Peacock qui vont vouloir voir le show d'Australie. WrestleMania, l'abonné Peacock n'aurait pas Spike parce que The Rock est là en particulier. Il aurait Spike parce que c'est WrestleMania puis les gens veulent écouter WrestleMania. Mais d'avoir The Rock en avance au mois de février... C'est bon pour Peacock aussi. Fait que, tu sais, moi, je vois que du bon de l'avoir.
Ouais, mais je sais pas. Il y a quelque chose qui me semble wrong par rapport à ça. Pis...
Mais c'est juste parce qu'on n'est pas habitué de ce modèle d'affaires-là. Mais va falloir qu'on s'habitue à ça de plus en plus quand les pays mettent autant d'argent pour avoir les shows de WWE chez eux. Tu sais, Charles McCall est revenu en Arabie Saoudite, là.
Je comprends. Mais tu sais, c'est vrai que c'est l'Elimination Chamber qu'on va avoir en Australie. C'est un gros pay-per-view. Mais habituellement, c'est le pay-per-view juste avant WrestleMania. Écoute, il y a des options. Il y a des options. Qui gagne le Royal Rumble dans cette optique-là, d'après toi, d'abord?
CM Punk pour Challenge 7.
Puis qui gagnerait l'Elimination Chamber pour...
Cody Rhodes.
Pour Roman.
Mm. Et après ça, à la fin de l'Elimination Chamber, t'as un face-to-face, Cody puis Roman.
Écoute, c'est possible. C'est pas impossible. Mais il y a quelque chose que j'aime pas là-dedans. On verra bien. On verra bien. Mais bref, le Rock qui revient, c'est gros. Puis, surtout qu'en plus, il a été dire... mais j'ai aimé comment ça a été fait. J'ai aimé comment il est revenu. Tu sais pas vraiment, tu sais, il est juste là pour un one-shot. Tu sais pas vraiment, tu sais, pourquoi il vient interrompre Jinder Mahal. Et puis, à la toute fin, il fait juste dire, je veux aller m'asseoir, j'ai faim, je veux manger. Je devrais-tu m'asseoir dans une banquette au bar ou, tu sais, head of the table. Écoute, la foule a réagi. Tu devais regarder ça, t'as dû faire caca dans tes pantalons.
Yo, j'étais si content parce qu'il l'a amené de façon poétique. Là. Même moi, j'avais pas qu'il s'en venait avec ça. Puis tout le monde a fait le saut. Étoile du show, pour moi, c'est Jinder Mahal. Là. Jinder Mahal, il est pas à TV depuis combien de temps? Il arrive, une promo, comme il a fait sa promo, avec une foule qui était hostile.
Ouais.
Nail sa promo, nail les moments avec The Rock. Jinder Mahal, étoile du match.
Non, pour vrai, c'était le bon, c'est le bon heel que tu peux envoyer là. Il était pour avoir une réaction heel, puis ça dérangeait pas. Tu comprends, t'as pas gaspillé un heel en l'envoyant dans les mains de The Rock. Non, ça a été très
non,
bon.
Non, mais moi je trouve qu'au contraire, donner plus de temps à Jinder Mahal.
Ben, à la limite, ça lui a peut-être justement réouvert une porte d'avoir plus de temps d'antenne.
Non, mais moi, je suis très content.
Et puis, The Rock, en entrevue, je crois que c'est aujourd'hui, il a dit, pas en entrevue, mais sur les réseaux sociaux, il a dit « We're just getting started. » On fait juste commencer. Fait est-ce que ça pourrait dire deux matchs? Est-ce que ça pourrait dire l'Australie et Mania? C'est possible. Est-ce que ça pourrait dire le Royal Rumble? Pas impossible non plus, là.
Mais c'est clairement Randy ou Royal Rumble, là?
Non, mais Royal Rumble est dans sa maison à The Rock, là. C'est à Tampa. Ça se pourrait qu'il soit là.
Puis qu'il gagne le Rumble?
Le Royal Rumble, c'est la meilleure place pour perdre un match sans perdre un match. Puis créer une rivalité qui va s'en aller pour le pay-per-view le mois d'après.
Ouais.
C'est pas impossible. Ou il peut juste... C'est le Rock, là. Il peut faire ce qu'il veut, là. Il peut juste arriver et faire un face-à-face avec quelqu'un, tu sais. Mais je serais surpris que s'il est pas être là à Mania, qu'il soit pas au Rumble alors qu'on est à Tampa, là, en Floride, où il va être, tu sais, où c'est sa maison. Là. La seule chose, et c'est Dave Meltzer qui a mené ce point-là, c'est qu'il va quand même être occupé avec sa nouvelle ligue.
Ben, c'est ça.
Parce que là, il est... la USFL et la XFL ont décidé de fusionner. Donc, les deux ligues alternatives à la NFL aux États-Unis, l'une d'entre elles qui est celle que Vince McMahon a eue pendant un certain nombre d'années, l'autre étant celle de Dick Ebersole de NBC, ben ils fusionnent pour devenir la United Football League, la UFL. Premier match, c'est le 30 mars entre les deux champions. Donc, on se demande d'où ils ont pris l'idée d'avoir deux champions qui s'affrontent. Mais, et c'est le 30 mars. Ça veut dire la semaine avant WrestleMania.
Ouais, ça veut dire que Rock, il va vouloir faire de la promotion de ces matchs-là. Donc, il va.
Mais ça veut aussi dire qu'il va être très occupé.
By the way, moi, c'était mon idée. Hein. Oh, God.
Quoi, ça, de fusionner ces deux ligues-là?
Non, mais mettons, tu sais, tu prends toutes les ligues de hockey féminin, puis les champions de chaque ligue, tu fais un gros... Ligue des champions, là.
OK.
God! Ça serait fou, ça.
Mais là, ça tu parles de toutes les ligues d'hockey féminin à quel moment?
De l'année passée, là, quand il y avait la PHF et la P-Dub.
Et la P-Dub.
Ouais.
Mais c'est deux, ça.
Mais non, la Ligue de Suède et la Ligue de Finlande est forte.
Ah, hein. t'inclus l'Europe aussi. Ah oui, oui, ouais. je comprends.
Petit inside scoop, ça a été pendant, je dirais, 3 semaines, une possibilité.
Ah?
J'en parlerai un jour.
Qu'est-ce qui est arrivé?
Ben, c'était même pas l'année passée, c'était genre, il y a une couple d'années, là. J'avais parlé aux gens de Finlande. Et
quand t'avais commencé à vouloir t'impliquer dans le hockey féminin.
Exactement.
Donc, je comprends. Adam Cole, qui est peut-être l'autre grosse nouvelle du temps des fêtes. Adam Cole est le diable et Samoa Joe est le champion. Puis tout ça, c'est interrelié. On a finalement su ça à la toute fin du pay-per-view du 30 décembre des AEW World's End. Où, en tout cas, moi, personnellement, j'ai adoré comment ça a été fait. Je trouve qu'il y a une très, très belle logique en arrière de ce qu'on a vu. Je veux t'en entendre parler davantage.
Ah, ben, tu sais, c'est sûr, j'aimais ça de voir que Adam Cole est dans le coin de MJF, il a pas pris de coup quand l'attaque s'est faite. Maintenant, tu sais, pour moi, Roddy, Taven, puis Canalis sont un peu irrelevant, là.
C'est pas Canalis, c'est Bennett.
Bennett.
Puis Wardlow.
Puis Wardlow, pour moi, oui, ça vaut la peine. Mais les trois autres, là, c'est irrelevant. Là. C'était les go-away segments, là, il y a quelques mois à la télévision.
Oui,
mais
ça a quand même du sens qu'il soit là à cause de Roderick.
Mais oui, ça a du sens qu'il soit là. Je dis pas que ça a pas de sens. Je dis juste que j'étais comme... Meh. OK, c'est eux autres. OK, parfait. C'est eux. J'espère qu'on va pas avoir des segments funny avec qu'est-ce qu'ils ont fait à MJF. Là. Après ça, c'est de voir, tu sais, avec la blessure de MJF, avec...
Avec la blessure d'Adam Cole, faut pas l'oublier.
Blessure d'Adam Cole, mais tu sais, en tant que leader, il a pas besoin de se battre, tu sais, fait qu'il peut juste boiter puis tout le monde est content là. Donc non, même j'ai pas.
Parce que pour ceux qui l'ont pas vu là, honnêtement, ça a vraiment été bien fait. T'as commencé à l'expliquer là, mais dans le fond, c'est que Adam Cole arrive pour être dans le coin en béquille, pour être dans le coin d'MJF contre Samoa Joe. Et là, par la fin du match, Samoa Joe gagne. Par soumission. Et ça a été bien fait. Ils ont même protégé MJF dans le finish où l'arbitre lève le bras 3 fois. La 3e fois, le bras d'MJF tombe sur son corps à lui, sur sa jambe. Et là, l'arbitre, à un moment d'hésitation, fait sonner quand même la cloche pour dire que le combat est terminé. Samoa Joe, le nouveau champion. Et puis, ben là, il y a une attaque de la part des démasqués. Ils s'en prennent à Cole, mais ils s'en prennent pas à Cole vraiment. Ils retiennent Adam Cole. C'était ça la beauté de la chose, c'est qu'ils l'ont pas attaqué. Ils l'ont juste retenu. Et là, MJF, lui, il se fait retenir de son côté. Il s'aperçoit de Samoa Joe. Mais Samoa Joe, on savait déjà à ce moment-là. Quand MJF a perdu les titres par équipe de Ring of Honor contre justement les masqués, on savait déjà à ce moment-là que Joe faisait partie, ou en tout cas était en association avec les masqués, parce que il l'a dit, puis il a attaqué MJF. Maintenant, ça c'était dans la maître juste avant. Maintenant, rendu au pay-per-view, MJF pleure là, sa vie pour dire laissez aller Adam, il est blessé. Et là, les lumières se ferment, les lumières rouvrent. Et t'as 3 masqués en arrière avec Adam Cole qui est assis sur la chaise, qui est clairement, comme t'as dit, le leader. Puis là, on attaque MJF. La caméra sur MJF, quand ça arrive, honnêtement, c'est venu me chercher. J'ai comme fait, ça m'a comme brisé le cœur pour MJF, parce que c'est tellement ça l'histoire, je trouve. Tu sais, c'est MJF qui a complètement changé de personnalité depuis qu'il était mis avec Adam Cole. Il est devenu babyface à cause d'Adam Cole, il est devenu une meilleure personne à cause de lui. Il a tout fait pour être, pour protéger Adam Cole, et là, c'est Cole... La seule personne en qui il avait confiance, qui surveillait contre lui, c'est. J'ai trouvé ça magnifique comme angle. Non?
Oh oui, ben j'ai déjà dit que j'aimais ça.
Non, mais c'est rare, je trouve, que AEW nous a donné une histoire aussi poignante.
Ben, poignante, j'irais pas jusque-là. Là, tu sais, MJF a bien acté cette scène-là. Mais j'irai pas jusqu'à la poignante, là. Tu sais, je pense que c'est un...
Mais pour moi, la dernière storyline, là, qui est venue me chercher comme ça des AEW, c'est Cody contre Dustin.
Je pense que c'est même pas dans la même niveau.
Mais c'est venu me chercher, je trouve, un peu de la même façon.
T'as le droit. Je dis juste, moi, personnellement, je sens plus, là. Tu sais, je pense que les W surutilisent les lumières fermées, les lumières ouvertes, là.
Mais dans ce cas-ci.
Mais je comprends, mais c'est parce que ça dévalue dans ce cas-ci parce qu'on le surutilise, tu sais. Fait que pour moi, les lumières sont fermées, ils sont fermés super longtemps en plus. Que je trouve que ça brise le rythme. Puis moi, je voulais pas aller dans le détail d'eux, mais tu sais, la lumière, elle a réallumé. Puis vous comme je dis, j'ai aimé le segment, je voulais pas de nitpick. Moi, je veux nitpick, on me demande de nitpick. Mais vous allez voir, quand les lumières sont rallumées, clairement, Cole vient de s'asseoir puis vient de se placer. Donc, les lumières ont été rallumées une petite affaire trop vite. Là. On a vu le mouvement de quand ils viennent de se placer, la tête baissée. Puis ça, j'étais comme, ah, si on avait été capable de juste attendre 2 secondes de plus, puis pas de compliquer les choses avec la chaise, puis tout. Est-ce que c'est parce qu'il avait mal à son pied, donc il devait absolument être assis? J'aurais aimé qu'on voit le masque plus vite, parce qu'on comprenait que c'était Adam Cole,
le leader,
mais son masque était dans sa poche de veste. J'aurais aimé que avant que MJF fasse attaquer, j'aurais aimé qu'il sorte le masque puis qu'il lance à MJF. Donc là, on aurait une autre réaction d'MJF. Et là, après ça, quand il se lève debout, boum, il se fait attaquer. Donc ça, c'est mon petit nitpick. Pour le rendre, je te dirais, une petite affaire mieux pour moi, là. Mais c'était pas un mauvais segment, là. Puis,
au contraire, moi, honnêtement, le jeu d'acteur d'MJF là-dedans, puis toute l'histoire, tu sais, toute la dernière run de Babyface d'MJF est basée sur son amitié avec Adam Cole. C'est comme Adam Cole qui l'a rendu agréable ou gentil pour les gens. Et là, ben, c'est lui qui se revêt compte. Puis on savait que ça pourrait arriver à un moment donné, mais le jeu d'acteur d'MJF là-dedans, je l'ai vraiment, vraiment aimé. Puis c'est ça qui est venu me chercher. J'ai comme fait, oh, c'est donc ben chien. La seule personne en qui il avait confiance, ouais, la personne qui l'a rendu une meilleure personne, se tourne contre lui, tu sais.
Ouais, bref, mais t'sais,
moi, j'ai vraiment adoré ça. Toujours, continuons dans le pay-per-view World's End. Eddie Kingston est devenu le premier
Quand Eddie Kingston a vu le belt, j'ai trouvé ça plus poignant que quand MJF
On n'a pas la même relation avec Eddie Kingston.
Tu sais, Eddie Kingston, qui est un fan de All Japan, qui est un fan du Triple Crown, qui a eu un match. Il y a eu ses trois derniers matchs, c'était du feu. Dernier avec Bryan Danielson, puis celui-là avec Moxley. Wow! Le gars, on travaillait extrêmement fort. C'était un très, très beau moment. On l'a laissé vivre le moment du côté de AEW. J'aurais aimé qu'il nous présente mieux la ceinture. J'aurais aimé ça que je sais pas comment il aurait pu la shooter. Peut-être parce que tu vois la phase de Eddie Kingston. Est-ce qu'on met Eddie Kingston un peu de côté, puis Bryan Risberg un peu de côté pour que le hard cam voit la ceinture puis qu'on voit la réaction d'Eddie Kingston, parce que on était de dos, fait qu'on a juste vu la ceinture quand Kingston l'a levé au hard cam. Donc c'est un petit détail.
Moi, de mon côté, la seule chose, c'est que pour moi, c'était un petit peu plus prévisible que Eddie Kingston gagne. Je voyais pas quelqu'un d'autre gagner ce tournant-là pour toutes les raisons que t'as mentionnées.
Ah, ben, je suis pas d'accord, là. Il y a beaucoup de gens qui disaient Swerve. Il y a beaucoup de gens qui disaient Bryan Danielson. Puis tu voulais mettre un gros nom.
Mais pour moi, je voyais pas. À Long Island, en plus, je voyais pas personne d'autre que Eddie Kingston.
Ah, moi, je pense que Swerve à Long Island aurait eu un gros pop. Il y a eu un gros pop contre Dustin, là. T'sais. Fait que, tu sais, je pense pas que Eddie Kingston était tant que ça un sure shot, surtout qu'il avait perdu ses deux premiers matchs puis qu'on se demandait vraiment si elle allait même se rendre en finale.
Non, mais ça je comprends, mais une fois tu voyais le tournoi se dessiner dans les dernières semaines.
Ah ben là, moi, c'est sûr que dans les dernières semaines c'est différent que depuis le début du tournoi. Moi je parle de depuis
le
début du tournoi.
Oui, non, ça je comprends.
Depuis le début du tournoi, je pense qu'il y avait plusieurs noms avant Eddie Kingston que les gens avaient devant eux, puis je suis content qu'AEW a mis le Rocket sur Eddie.
Ben absolument. Puis ça va être, c'est sûr que ça a créé un bon moment. Puis ça a été un excellent match avec John Moxley. Christian Cage, lui de son côté, il a perdu et gagné le titre TNT. Ça a été un gros match avec Adam Copeland. un bon match également. J'ai juste pas aimé personnellement le spot de table.
Mais c'est parce qu'ils l'ont manqué, c'est juste ça, là?
Ben, c'est parce que de un, du feu sur une table, je déteste ça à la base. C'est dangereux, tu contrôles pas toujours à 100% ce qui va se passer, puis il peut arriver des accidents. J'ai jamais été
ouais, mais
à l'aise
de spots
avec...
qui sont dangereux, là.
Je suis d'accord, le feu, c'est une autre bête pour moi, le feu. C'est un autre animal, c'est différent. En plus, il lance un gars de 18 ans là-dedans, Nick Wayne. Et je trouvais qu'il n'y avait pas d'upside avec ça. C'est que là, il a voulu l'envoyer plus loin pour pas qu'il soit carrément dans le feu. Ça veut dire qu'il a manqué un peu la table. Je suis pas sûr que c'était pas voulu. Fait qu'il a pas vraiment tombé dans la table. Fait que le feu servait un peu moins à rien. Au lieu de juste avoir une table, pas de feu, puis de faire un bon powerbomb à travers la table, old school, puis je pense que ça aurait été plus efficace que ben, d'essayer de mettre des artifices supplémentaires pour rien.
Tu sais, Edge, il portait son ring gear de WrestleMania 22. Je pense que c'était un odd avec ça à WrestleMania 22 avec Mick Foley. Ça va pas déranger le feu, ça a eu une réaction de la foule. Tu sais, mettons... Edge, je suis pas tant stressé parce que ça fit avec son caractère, le feu. Là. Adam Copeland, je suis pas tant stressé avec ça fit avec sur ce qu'il a fait dans le passé. Par la suite, c'était un match deux vets, bien monté, bien calibré. Un excellent match. Ils ont remis les gens dedans parce que les gens, ils étaient pas dedans depuis le début du show.
Après le premier match, en fait.
Non, même le premier match, là, je m'excuse. Là, ça avait pas lieu d'être le premier match. Là. Pour faire quoi, là? On n'est pas à Dynamite, hostie, là.
Ben, ça a quand même été un bon match.
Mais on n'est pas à Dynamite, là. On est sur Pay-Per-View, là. Donnez-moi des matchs qui valent la peine, qui ont des histoires, là. On est sur Pay-Per-View, là. Faites des 4 contre 4 avec du monde qui sont random, là.
Oui, hey. Oui, mais ça, tu sais pourquoi il a fait ce match-là.
Ben, parce qu'il voulait avoir son monde sur la carte.
Ben, oui, puis parce qu'il y a aussi des blessures, puis il a été obligé de repenser à la carte un peu.
Ouais, mais pour moi, c'est pas un bon move, le 4 contre 4 de Dynamite.
Peut-être, mais le match...
Jusqu'au match de Adam Copeland puis Christian, ce n'était pas une bonne carte de lutte. Je m'excuse, là. Ceux qui vont être offensés, là. Jusqu'au match... Ah,
mais t'as pas tort dans le sens où, si je regarde sur Cage Match en ce moment, Miro contre Andrade, 5.33 sur 10.
Marchait pas. On comprend même pas qu'est-ce que Lana, elle est.
Ben non, mais effectivement, t'as raison. Tony Storm contre Rio, 5.14. Strickland contre Dustin, 4.35. Le match à quatre équipes avec Jericho et Guevara, entre autres, 3.53. Ça, c'est sur 10, voté par les gens qui vont voter sur Cage Match. Julia Hart contre Abandon, 3.26. Et là, t'as Copeland Cage, 8.36. Puis t'as Kingston Moxley, 8.28. T'as la finale, Joe et MJF, 7.14. Puis le premier match, 7.37. C'est pour ça que je te dis, il y a vraiment un écart entre le premier, puis les trois derniers, puis le reste de la carte.
Ben moi, je trouve juste que le premier avait pas lieu d'être, c'est tout.
Non, mais outre le fait qu'il avait pas lieu d'être, ça a été un bon match.
Ça a été un bon match, mais moi, je l'ai écouté en me disant, mes notes, c'est pourquoi j'écoute un match de Dynamite, c'est tout.
Et là, ce qui est arrivé, c'est Christian perd le titre. Killswitch, qui avait gagné la bataille royale dans le pre-show, lui permettant de challenger pour le titre TNT à tout moment, ben, il vient pour cacher. Et là, ben, Christian le convainc de lui donner à lui ce contrat-là, et il bat Copeland à nouveau, et là, il redevient champion. Je comprends ce qu'on a fait. J'aurais pas eu ça non plus juste de laisser la belle sur Copeland.
Mais non, mais on est sur le chase encore. Là. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. C'était un bon heel move, c'était une belle touche.
Tu vois, pour moi, ça, c'est du stuff de télévision et non pas de pay-per-view. T'avais déjà une twist à la fin. T'avais pas besoin d'une deuxième twist.
Bah, bon, moi j'ai aimé ça. Regarde le belt sur Christian. Christian met le belt over. Une autre raison pour le chase d'Adam Copeland. Moi j'ai aimé tout le segment.
Ouais. Moi, j'aurais vu Copeland gagner le titre puis
lui
donner le citron. Ben, il lui donnait le citron ou à la limite faire cet angle-là à la télé. T'étais pas obligé de faire cet angle-là en pay-per-view.
Ben, moi, ça m'a pas dérangé.
Ben, c'est correct. Moi, le premier match m'a pas dérangé. Fait que, tu sais, chacun, non nick-pick là-dessus. Il y a eu plusieurs retours à AEW dans les dernières semaines. Vous mentionnez que, j'allais mentionner, Sammy Guevara est de retour. On a reformé les Sex Gods. Les Sex Gods, oui.
Regarde, avec... faudrait pas qu'ils s'appellent de même à la télé, hein?
Comment?
Faudrait pas que Chris Jericho s'appelle comme ça à la télé, hein?
Sex Gods?
On va se faire ruer, man.
Ben, il s'est fait ruer.
Je sais.
Et ça, là, c'est une affaire que... on sait pas encore ce qui se passe avec Jericho, là.
Ça sent pas bon.
Je comprends. Mais il y a comme deux histoires. Puis j'ai l'impression que les gens ont mélangé les deux histoires.
Moi, là, je dis rien tant que je sais rien.
Non.
Je sais juste que...
Parce qu'il y a Nick Tony Osman...
Tony Khan aurait dû donner une meilleure réponse puis continuer à donner des réponses de merde.
Mais en même temps, il y a peut-être pas les réponses lui non plus. Parce que là, dans le fond, il est accusé de rien, Jericho.
Ben, c'est Osman qui l'a accusé. Moi, je suis pas sûr que Jericho va le poursuivre, là.
Mais Osman l'a accusé de quoi, Kev?
Ben, d'avoir eu d'avoir fait des trucs... Il a pas dit l'affaire de Kylie Rae, là.
Il a pas parlé de Kylie Rae du
non,
tout,
Osman. Non, il a juste dit qu'il avait eu des comportements.
Il a dit que il y avait...
Il a sous-entendu des comportements.
Il a sous-entendu des comportements. Exactement. Puis je pense que où il a fait une... Ben, je veux pas dire une gaffe si c'est vrai en bout de ligne, mais à partir du moment où tu compares ou t'amènes Harry Weinstein dans la conversation, ben, c'est sûr que ça enligne les rumeurs vers un certain type de comportement.
Exactement. C'est pour ça qu'il va se faire poursuivre.
Mais le point, à la base, c'est-à-dire que Jericho avait déjà signé des NDA. C'était juste ça l'argument qui partait. Parce que Jericho a dit qu'il n'a jamais signé d'NDA de sa vie. De contrat, de
ouais, c'est
de
un close. Tweet qu'il a fait, un tweet qu'il a fait à 4h du matin à Noël. Là, à l'agent de Jericho.
Jericho.
Le tweet qu'il a fait à 4h du matin à l'agent de... à l'avocat, excuse-moi, de A-Steel et de la femme à A-Steel.
Et de CM Punk aussi.
Et de CM Punk.
Ouais. Et Jericho devrait pas faire de tweet. À 4h du matin.
Personne ne devrait faire des tweets à 4h du matin.
Surtout pas la journée de Noël. Mais lui, dans le fond, il disait qu'il avait jamais signé une entente de non-divulgation. Et c'est là que Nick Osman l'a calé là-dessus. Et c'est comme ça que toute la chose a parti. Kylie Rae, c'est parallèlement à cette discussion-là. Alors, et on sait pas plus ce qui s'est passé avec Kylie Rae. Parce que la personne qui a parlé de Kylie Rae a parlé de... Il se serait essayé sur Kylie Rae. Mais il se serait essayé. Et ça veut dire beaucoup puis pas en même temps, tu comprends?
Ben, pour ça que je dis, on verra comment ça va se dénouer.
Ben,
on
je verra comprends,
quand
mais
plus d'informations vont arriver.
Il y a quand même une moitié d'Arena qui l'a hué basé là-dessus.
Mais oui, puis est-ce qu'on aurait dû le mettre sur le pay-per-view? Je sais pas.
Ben,
t'es trending numéro 2 au monde, là? Pour une affaire de même, je pense que le boss peut faire comme, hey, tu sais quoi, on va prendre un break aujourd'hui, ça va être un 3 contre 3.
Et si t'es boss, puis si t'as du leadership, t'as une discussion avec lui rapidement là-dessus, et effectivement, t'sais, mais...
Faire un angle que Jericho, il se fait attaquer backstage, puis il est à terre, là.
Mais Tony a jamais été... nous a pas démontré à date qu'il était bon pour gérer ce genre de situation-là.
Jamais.
Il deviendra pas du jour au lendemain, tu sais. Bref, Sammy Guevara est de retour. Après quand même un certain moment, là, depuis on ne l'avait pas vu depuis octobre, suite à une commotion cérébrale. Il y a Serena Deeb également qui est revenue après octobre 2022. Et il y a Thunder Rosa après un an et demi, elle, qui est revenue également. Donc, une division féminine où on retrouve beaucoup de bonnes lutteuses. Maintenant, il faut la booker comme il faut, cette division-là. Mais Deeb et Rosa, quand même, deux bons talents qui reviennent à ce niveau-là.
Bien aimé le vidéo package de Serena Deeb.
De qui?
Serena Deeb.
Serena Deeb, oui, absolument.
Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Il y a beaucoup de signatures également. Il faut parler de Charlotte Flair, qui a re-signé à la WWE. Rey et Dominic Mysterio ont re-signé. Bayley a re-signé. Cody Rhodes a re-signé. Zelina Vega a re-signé également. Donc, beaucoup, beaucoup. Et on vous en parle parce que, ben, veut pas, il y a une guerre de talent. Donc, c'est important de savoir qui est signé, qui l'est pas, qui va être agent libre en 2024. Et du côté des EW, on a annoncé la signature de Tipin Shibata. Donc, tu vas être content. Avec la permission de New Japan.
Donc. Ben, j'ai aucune opinion là-dessus. T'as-tu vu comment qu'ils utilisent Tipin Shibata?
Ben oui, mais maintenant qu'il est signé, ils vont peut-être mieux l'utiliser.
Peut-être.
Il y a des départs également du côté des EW, des départs administratifs. Raphaël Murphy, qui était qui était en fait le vice-président en charge là des spectacles des EW, les live events. C'est lui qui bookait dans le fond les arénas, qui faisait le marketing local, toute la logistique. Lui, il avait déjà travaillé pour la WWE et pour TNA à l'époque, pour les Mets également. Mais lui, il est parti de son propre gré pour prendre un emploi avec les avec le Barclays Center, en fait. Et ça, j'en avais entendu parler à Montréal. Puis d'ailleurs, c'est à Montréal que ça s'est décidé ou qu'il a donné sa démission. Lui, dans le fond, là, quand j'avais des billets gratuits en provenance de certains lutteurs, c'est à travers Raphaël Murphy que je les avais. J'ai jamais rencontré, mais on m'a toujours décrit comme une très, très bonne personne puis très compétent. Mais bon, là, il a décidé de s'en aller. Dana Massey, la femme de Matt Jackson, donc la femme de Matt des Young Bucks, elle aussi a quitté de son propre gré. Elle qui était là du jour 1 de la compagnie, qui était la chef du marketing et du merchandising. Donc, est-ce qu'on va voir un... Tu sais, on a souvent critiqué, par exemple, la marchandise de la WWE, de la EW, le faible nombre de T-shirts. Peut-être que ça va changer avec quelqu'un d'autre à sa place. Tony Khan l'a quand même mis over en disant que sans elle et sans le fait qu'elle ait convaincu Matt de lui retourner l'appel à Tony Khan en 2018, ben il y a peut-être pas d'AEW aujourd'hui. Donc Dana qui a eu ce rôle là dans l'histoire de la compagnie. Sean Spears est parti également côté des lutteurs. Andrade a confirmé qu'il avait quitté la compagnie également. Et ça s'ajoute à QT Marshall qui est parti, puis à Kevin Sullivan qui est parti. Donc, beaucoup de départs au niveau administratif. Trouves-tu ça inquiétant ou...
Non, pas plus que ça. Là. Tout le monde peut se faire remplacer. Là. Moi, je suis tout le temps ça, mon take. Là. Donc, ça va peut-être donner l'opportunité à d'autres mondes de bien performer. Là.
Sean Spears, tu vois quoi avec lui?
Ah, NXT.
Tu penses qu'il pourrait revenir, ouais?
Ouais, il a mis une photo avec un X pour dire 10, donc ça m'étonnerait pas qu'il revienne. On pourrait même le voir dans Royal Rumble, ça m'étonnerait même pas. Là. Lui, Andrade, dans Royal Rumble, ça m'étonnerait pas.
Ouais, lui, d'ailleurs, Sean Spears et son épouse, Cassidy, qui attendent un deuxième enfant. Andrade, ben oui, c'est pour ça qu'il voulait faire CMLL au plus sacré Andrade. Parce qu'il sait qu'avec la WWE, il pourra peut-être pas. Donc, lui aussi devrait revenir. On le sait, c'est le conjoint de Charlotte Flair. Donc, Andrade qui... en tout cas, lui, je suis sûr qu'il va revenir. Sean Spears, ben oui, effectivement, ça serait pas surprenant non plus. Pour moi, le plus gros départ, par contre, c'est du côté de la WWE. Kevin Dunn, qui était un monument à la WWE, qui quitte
un monument qui commençait à être désuet, là.
Absolument.
Tu sais, c'est plus ça, là, c'est que...
Mais c'est un monument depuis... pareil de la compagnie.
Ouais, je comprends, mais il commençait à être désuet, il commençait à en manquer des gros bouts, là.
Ben, dans les derniers mois, on dit même que Vince Dunn avait commencé à donner à c'est quoi le verbe que je cherche? À déléguer des tâches à d'autres mondes parce que il savait qu'il était sur son départ éventuellement depuis la fusion avec le UFC. Mais oui, écoute, je comprends ce que tu dis, puis on l'a souvent critiqué, Kevin Dunn, justement dans les multiples cuts, tu sais, qu'il y a dans...
Mais pas juste ça, là, c'est une façon vieux jeu de faire de la télévision, puis à un moment donné, il fallait passer à d'autres choses.
Ouais, non, mais je suis pas en désaccord, tu sais, Vince Dunn, ça a toujours été le gars de Vince McMahon.
Kevin Dunn.
Quand j'ai dit Vince Dunn?
Ça fait deux fois que tu l'appelles Vince Dunn.
Pas vrai? Mais c'est Vince McMahon puis Kevin Dunn, c'est mélangeant. Mm-hmm. Kevin Dunn, ça a toujours été le gars de Vince McMahon. Son père travaillait pour la compagnie. C'est de même que lui, il a commencé à travailler pour la compagnie. Donc, son père a travaillé pour le père de Vince. Et puis, ça a été... Tu sais, on dit souvent que Pat Patterson, c'était le bras droit à Vince. Ben, Kevin Dunn était le bras gauche à Vince. Tu sais, c'était vraiment ça. Vince McMahon perd du pouvoir dans la compagnie. Fallait s'attendre à ce que Kevin Dunn, ben, éventuellement, on le remplace. On sait pas encore par qui. Il y a des noms qui ont été émis, selon la rumeur, il y aurait plus d'une personne qui ferait le travail que Kevin Dunn faisait. C'est peut-être pas une mauvaise chose.
C'est ça,
peut-être
c'est
qu'il y en avait trop sur les épaules, justement. Donc, ça, c'est au niveau des départs. Maintenant, il y a des rumeurs. Il y a des rumeurs au niveau de la WWE et AEW. Mercedes Moné. Tu l'as mentionné tantôt. Selon les dernières choses qu'on apprend, c'est qu'elle ne serait pas de retour à la WWE. Elle aurait demandé beaucoup trop d'argent pour ce qu'on aurait voulu lui donner. Par contre, ce qu'on nous dit, c'est qu'elle va apparaître très bientôt ailleurs.
On verra.
Alors, tu sais, il y a AEW, il y a New Japan, un mix des deux, c'est pas impossible. Parlant de Japon, ben Julia... La vedette de Stardom qui, elle, s'en viendrait à la WWE. Donc, en 2024. Elle qui est la championne New Japan Strong Open Weight féminine. Donc, elle s'en viendrait, ce qui serait toute une addition pour la WWE. Naomi, qui, elle aussi, reviendrait à la WWE. Elle qui est présentement la championne féminine du côté de TNA. Et puis, il y a Deonna Purrazzo, qui, elle, s'en irait du côté des AEW, selon les rumeurs. Donc, beaucoup de mouvements au niveau de la division féminine. Reste à savoir qui va s'en aller où. Mais je pense, j'ai l'impression que tout le monde va avoir un peu sa part du gâteau. Là. AEW va avoir peut-être les siennes. WWE va avoir les leurs. Également, mais on parle quand même de quatre lutteuses d'élite qui vont s'en aller à WWE ou AEW. Parlant de lutteuses, on a des nouvelles championnes par équipe. Kayden Carter et Katana Chance ont remporté les titres à Raw contre Chelsea Green et Piper Niven. Opinion là-dessus?
Ben, écoute, moi, je trouve que on a déjà parlé là, dans le Wow Show. Katana Chance puis l'autre là, sont pas prêtes encore, là, mais écoute, si c'est ça, c'est ça. Puis on verra bien où ça va nous mener. Mais je pense pas que les filles sont prêtes. Là.
Tu penses pas que les filles sont prêtes à quoi exactement?
À avoir les titres par équipe ou à même faire quelque chose de potentiellement entertaining avec ça dans leurs mains.
Mais elles sont... Moi, ce que j'aime, c'est leur athlétisme.
Mais c'est tout ce qu'ils ont.
Ben oui, t'as raison. T'as raison. Okay. C'est mais c'est quand même... Tu sais, c'est différent de ce qu'on voit des autres lutteuses à la WWE.
Ouais, mais des Flip Monkeys, là, tu peux en trouver 14 au Cirque du Soleil. Là.
Pas du côté féminin. Il y en a moins du côté féminin, Kev.
Mais écoute, moi, j'ai besoin d'être entertained. Puis c'est fait long de la misère à nous entertain.
C'est correct. Fair enough. WWE a annoncé qu'il y aurait uniquement deux commentateurs par émission. Qui est une excellente nouvelle, tant qu'à moi, là.
Ben, moi, ça me dérange pas, le Truman Booth, là.
Ouais, moi, j'ai toujours l'impression que deux, c'est la meilleure solution. Et Michael Cole s'en irait exclusivement à Raw. Donc, lui et Wade Barrett. On n'a pas fait d'annonce pour SmackDown, mais j'imagine c'est Corey Graves et Kevin Patrick, là.
Mais il me semble qu'ils ont dit que c'était Corey Graves puis Kevin Patrick.
Il n'y a pas eu d'annonce officielle.
Mais il me semble que dans les trucs qui sortaient, c'était ça. Le...
Mais c'est de toute façon, je vois pas d'autre chose. Ils ont envoyé Michael Cole à SmackDown parce qu'on aime beaucoup Kevin Patrick. Puis on voulait qu'il apprenne. Ben là, sa période d'apprentissage est terminée, j'imagine. Puis on ramène Cole à Raw, tout simplement. Donc, ben voilà, si c'est ça, tant mieux. WWO Québec 2023, je pense pas l'avoir mentionné sur le keybook parce que j'avais pas ces stats-là. Mais la foule de Laval a été de 9080.
C'est incroyable.
Ça, là, c'est la plus grosse foule pour un spectacle non télévisé depuis 1989.
Wow.
Pour un spectacle non télévisé. OK? Pas 89, excuse-moi, je me mélange. Depuis 2001. Depuis 2001, c'est jamais arrivé qu'un house show attire plus que ça. Ce qui est pas arrivé depuis 89, c'est que la WWE en 2023 a attiré tout près de 60 000 personnes au Québec.
Ça, c'est fou.
Et ça, c'est pas arrivé depuis 89.
Ça, c'est fou, ça.
C'est fou, hein? Et en 89, c'était le double. Imagine. C'était à peu près 120 000 personnes. Mais il y avait beaucoup plus de shows. On venait presque une fois par mois à l'époque.
Non, mais on a bien fait ça à Laval, puis très heureux d'avoir été faire partie de cet événement-là. Là. J'en parle à beaucoup de gens, puis j'ai du temps, je prends pas pour granted le fait qu'on a la chance de rentrer dans un ring de la WWE. Donc, très heureux.
Oui, puis non seulement ça, on a eu la chance de partager le ring avec Kevin Owens.
Ouais, c'est quand même sick, ça.
Ça, c'est quelque chose qu'on... Tu sais, on savait ce qu'on faisait cette journée-là. On savait juste pas qu'à un moment donné, Kevin Owens viendrait nous rejoindre. Là. Donc ça, ça a été vraiment, vraiment cool. Faut parler du décès de Killer Khan rapidement.
Ouais.
Lutteur japonais de son vrai nom, Masashi Ozawa, qui est décédé à l'âge de 76 ans. J'en parle énormément dans mon livre avec Bertrand Hébert sur le géant ferré, parce qu'il y a eu une grosse rivalité avec le géant ferré. On lui a même attribué une blessure du géant à la cheville pour laquelle Killer Khan avait aucun rapport. Le géant s'est levé un matin, il a mis les pieds à terre, il s'est brisé la cheville.
C'est fou, ça.
Et on a mis la faute sur Killer Khan, ce qui a mené à une rivalité entre les deux.
Ben, c'est une bonne idée.
Ben oui, surtout à l'époque. Killer Khan qui a affronté d'autres très, très bons lutteurs dans sa carrière, entre autres Hulk Hogan, à la WWF en 87 avec Mr. Fuji comme gérant. C'est d'ailleurs après ça qu'il s'est retiré. Mais quelqu'un qui a lutté de 71 à 87. Donc, c'est un des noms que j'entendais beaucoup parler quand j'étais plus jeune. Killer Khan qui est décédé à 76 ans.
Oh,
star,
non.
Surtout avec New Japan.
Je viens de voir Private Party et de retour ensemble.
Ah ben oui, parce que là, on enregistre durant Dynamite.
Oh non. Boy. On va donner la chance aux coureurs.
Tu parlais tantôt de Monkey Spot.
Ouais. Mais on n'en veut pas de ces gars-là. That's it.
Ben peut-être qu'ils ont appris à travailler.
Ouais, mais pas besoin.
Pourquoi pas besoin?
Moi, j'ai trop... En tout cas, on va donner la chance, là. Donnons la chance, puis on verra.
Ce que t'as toujours reproché à Private Party, c'est qu'ils travaillaient mal. S'ils ont appris à travailler depuis, pourquoi t'en voudrais pas?
Ben, c'est pour ça que j'ai dit, on va leur donner une chance.
Ah, bon. Je vais terminer les nouvelles avec l'infirmerie, Kev, parce que là aussi, il y a ben du monde. Premièrement, Kenny Omega a été diagnostiqué avec des diverticulites. Et il est sur les lignes de côté pour une période indéterminée. Charlotte Flair. Écoute, Charlotte, là, t'as-tu lu sa blessure à Charlotte?
Ouais.
Elle a un ligament croisé antérieur, ligament croisé, un ACL, un MCL, puis le ménisque de déchiré.
Elle a eu toute la fin.
Écoute, son genou, là, il a éclaté. Et on parle de 9 mois pour Charlotte. Ça veut dire pas de Royal Rumble, pas de WrestleMania, là.
Non,
peut-être
mais
même pas de SummerSlam.
Loin des yeux, ça peut être bon pour Charlotte Flair.
Je comprends, mais à WrestleMania, c'était une de celles qui finissait souvent par livrer.
Ouais, mais c'est pas comme si ça allait nous t'sais, donnons non, toute non, la place mais... à Charlotte, puis c'est pas y a pas de panique là.
Mais il n'y a jamais de panique. J'ai pas dit qu'il y avait de la panique. Je juste dire que Charlotte, c'était quand même une lutteuse qui, dans les gros moments, était capable de livrer des bons combats. Bandido, qui, lui, du côté des AEW, a eu une deuxième opération à un poignet. Donc, on parle encore là, de plusieurs semaines, voire mois, de son côté à lui. Xavier Woods, également, est blessé. Donc, a manqué les dernières semaines. On l'a vu du côté de Birmingham, en Alabama. Ce qui est jamais bon signe quand un lutteur de la WWE se ramasse là. Dean Malenko, du côté plus backstage des AEW, a eu une opération qui s'est très bien passée, mais au cerveau.
Ouais.
Ça, c'est le genre d'opération que tu veux pas dans la vie. Ça, puis
ouais, mais c'était pour son Parkinson, là?
Exact. Donc, espérons que ça fonctionne bien et qu'il puisse revenir à ses fonctions le plus rapidement possible. Keith Lee également, qu'on a remplacé du côté de World's End par Dustin Rhodes. Ça, j'imagine, c'est un match que t'aurais juste coupé.
Keith Lee contre...
Keith Lee devait affronter Swerve Strickland.
Ah, tu coupes le match, là. Pourquoi mettre Dustin, là?
Ben, c'est ce que je pense, moi aussi.
Tu sais, au pire, c'est un squash, je sais pas, man. Si tu veux que les gens ils chantent la toune pis qu'ils dansent, fine. Mais pourquoi tu mets Dustin? Y'avait pas de personne d'autre sur le roster que Dustin? Tu sais, au pire, un rematch entre Swerve pis Jay White, j'aurais déjà plus aimé ça, voir ça, que Dustin. Je sais pas que Dustin a donné une mauvaise performance, mais guys, le niveau est pas là comparé à Swerve, là.
Y a également Raquel Rodriguez qui, elle, a annoncé qu'elle avait le syndrome d'activation mastocytaire.
Ouais.
Donc, dans le fond, c'est une condition qui... j'arrive plus ou moins à l'expliquer comme il faut, là, mais...
C'est des démangeaisons.
Ça donne des démangeaisons, des rougeurs également.
Des plaques.
Sur la peau, au visage aussi. Elle disait qu'elle n'arrive même pas à se regarder dans le miroir. Donc, c'est pour ça qu'on la voit pas depuis un certain temps. Et Kota Ibushi, qui s'est blessé aux deux chevilles. Donc, il y avait l'épaule... De Magané, il a manqué quoi? Un an et demi à cause de son épaule. Et là, il y a les deux chevilles blessées. Donc, à 41 ans, j'ai comme l'impression qu'on a vu, on verra plus jamais le Ibushi des bonnes années, Kev.
Non, puis je pense que le désir non plus est plus autant là que Ibushi des bonnes années. Non?
Mm.
Écoute, on va pas vendre rien, mais ouf, c'était difficile les derniers shows de Ibushi. Non?
Pourquoi tu veux pas vendre rien?
Dans le sens qu'on veut pas dire, on veut pas vendre la peau de l'ours avant que l'ours soit mort, fini, là. Mais.
On dit on veut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué.
Ma colisse.
Toi, tu tues pas des ours?
Là, tu tues des ours. Hey, moi.
Au niveau de Le Québécoise maintenant. Le Québécoise, j'ai juste mentionné, la NSPW, tu sais, avant les fights, Kev, je t'avais parlé qu'il y avait Matt Riddle. Mm-hmm. Qui était pour être du côté de la NSPW. Mm-hmm. Mais là, la NSPW a également annoncé que Mustafa Ali serait là le 20 janvier. Il va lutter contre Leon Saver. Donc, très content de Leon Saver, un des bons gars dans le business au Québec qui va avoir une belle opportunité. C'est d'ailleurs une tournée d'indie là, que Mustafa Ali a annoncé. Et il va être le 18 janvier à Ottawa pour C4. Le 18 janvier à Toronto pour Demon Lucha. Mm-hmm. Le 19 janvier à C4 à Ottawa. Et le 20 janvier à Québec pour la NSPW. Donc, ça va être une grosse tournée. Puis, il fait bien. Il fait bien de capitaliser sur sa sortie avec la WWE.
Ah, ben tu vois, Deonna Purrazzo vient de show up à Dynamite.
Ah, pour vrai?
Avec probablement le pire outfit que j'ai jamais vu de ma vie. God, ben, Lord.
Mais okay. au moins les rumeurs disaient vrai. Donc, Deonna Purrazzo qui s'en va avec AEW. Donc, si AEW ajoute Purrazzo et Mercedes Moné, je peux pas croire qu'ils vont pouvoir continuer à faire un match de femmes par Dynamite. Ça n'aura pas de sens. Donc, voilà, Mustafa Ali avec la NSP, ben pas avec la NSPW, mais qui sera à la NSPW le 20 janvier prochain. On va avoir le temps de s'en reparler. Il faut parler du Japon aussi, Kev. Deux grosses nouvelles, tant qu'à moi. Hiroshi Tanahashi, qui devient le nouveau président de New Japan Pro Wrestling.
Avais-tu vu ça? On a parlé avant.
On n'a pas parlé. C'est arrivé durant le temps des fêtes.
C'est pas arrivé au dernier podcast?
Non. Hey, le dernier podcast, il date du 13 décembre.
Ok, calme, toi.
Je suis calme. Hiroshi Tanahashi, qui remplace Takami Obari comme président. De ce que je comprends, ce sont les lutteurs qui voulaient un changement à la présidence.
Ben, dont Okada, là.
Dont Okada. C'est aussi un move pour peut-être garder Okada avec New Japan.
Ben, je pense que c'est plus... Regarde, Okada est en bif avec le monsieur, puis Tanahashi n'est pas en bif avec personne, fait qu'on va mettre Tanahashi, tu sais. Pas juste pour Okada, mais aussi pour le restant du roster. Le gars, c'était pas un gars de lutte, c'était un gars de business, puis là, il veut un gars de lutte à la tête de New Japan Pro Wrestling, donc très content pour Tanahashi, puis j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire, puis j'ai hâte de voir c'est quoi les prochains moves de Tanahashi.
C'est la première fois que c'est un lutteur qui est président de New Japan depuis que Bushiroad a acheté la compagnie.
Voyons voir qu'est-ce qu'il va nous faire. Puis tu sais, on le disait, Tanahashi, les genoux commencent à être lourds, là, donc de le voir comme président, c'est une très bonne chose, là.
Ben, c'est une transition. Tu sais, il a dit qu'il était pour continuer à lutter, mais effectivement, c'est une belle transition pour un après-carrière, tu sais. Et en même temps, on le sait qu'Okada se magasine une promotion. Fait que c'est jamais non plus mauvais de faire plaisir à ta vedette ou une de tes vedettes que tu voudrais bien garder, j'imagine.
Ouais.
Tu sais. As-tu vu également la grosse promotion au Japon, toutes les promotions qui s'unissent pour faire des shows, mais également juste pour améliorer la lutte ou l'image de la lutte au Japon? T'as-tu vu ça passer?
Non.
Donc, New Japan, All Japan, Noah, DDT, Ganbare, Big Japan, Dragon Gate, Stardom et Tokyo Joshi Pro Wrestling s'associent pour un groupe qui va s'appeler United Japan Pro Wrestling. Et le but est vraiment d'assurer une présence, une meilleure présence de la lutte au Japon, dans les médias, de ramener un peu ce côté si, tu sais, ce côté culturel de la lutte dans la culture japonaise et de permettre à la lutte de continuer de grandir dans la société japonaise. Et on va faire des shows de temps en temps, toutes les promotions réunies. Puis il y en a un, le premier, qui va être le 6 mai au Nippon Budokan. Et j'imagine qu'il y aura des matchs de toutes ces promotions-là. Je trouve que c'est une belle idée pour essayer de redorer ou d'améliorer l'image. Ben oui.
L'union fait la force.
Puis tu sais, la pandémie a été dure pour le Japon.
Ouais.
C'est beaucoup plus dur que... ici, aux États-Unis, au niveau de la lutte. Donc, c'est une belle façon, je trouve, de... Tu sais, souvent, c'est des compagnies qui ont été en guerre. T'sais, New Japan avec All Japan, All Japan avec Noah. Et là, de les voir réunis comme ça, je trouve que c'est une très, très, très belle idée. Les coups de cœur.
Nia Jax.
Nia Jax et Becky, là.
Nia Jax a eu le match de sa vie. Elle a eu le match de sa vie.
Le match de sa vie. Puis j'ai aimé qu'on nous raconte l'histoire du début. Tu sais, c'est souvent des choses qu'on a reproché autant à AEW, WWE, de pas nécessairement se rappeler de leur passé, de pas faire les choses, de pas nous expliquer.
Ben, pendant qu'on est là, je vais prendre la balle au bon.
Ça a été bien fait. Vas-y.
Cette semaine, tous les matchs ont eu un vidéo, tous les gros matchs ont eu un vidéo package digne de pay-per-view. Et si ils sont capables de me donner ça à Raw à chaque fois, je vais être l'homme le plus heureux du monde. On enlève les matchs random Otis pis Tozawa, là. J'adore Otis, je veux dire Tozawa. Tozawa, mettez-nous des vidéos package de 3-4 minutes. On se remet dedans puis on est excité de voir le match. Let's go. Il y a eu trois excellents vidéos package hier, lundi, excusez-moi, puis j'ai adoré ça.
Très, très, très bon point également. Triple H est maintenant en charge des nouvelles intronisations au Temple de la Renommée. Quand on parle que Vince a de moins en moins de pouvoir, ben ça, c'en est une autre preuve. Alors, peut-être qu'il va y avoir des noms qui auraient dû déjà y être et qui n'y étaient pas parce que Vince voulait pas. Donc là, c'est sûr que c'est pas un 180 degrés, là. Le gars qui a formé Triple H, c'est Vince.
Ouais, mais il y a des gens qui ont plus de chance. Là.
Mais oui. Puis, tu sais, Bruno Sammartino, c'était Triple H. Tu sais, c'est pas la première fois qu'il est impliqué avec le Hall of Fame non plus.
J'espère qu'on va voir un certain Régent. Régent
de Terrebonne?
Régent de Terrebonne. Mon ami Rougeau, mon maire, là.
Raymond
Rougeau.
Oui. Rick Martel également.
Rick Martel. Il y a des noms, là. Il y a une couple de noms, là, que... Puis est-ce que Triple H va être game de faire rentrer quelqu'un dans le Hall of Fame qui est dans une autre compagnie?
C'est un beau jeu de mots, ça.
Quoi?
Est-ce que Triple H va être game?
Oh, man.
The game!
Je suis trop malade pour ça, mais en ce moment, là, je suis sur mon dernier leg, de faire ce podcast-là, là. Non, fuck, can't stop me, là. Là, j'ai monté, je suis plus capable de monter.
Mais c'est ton jeu de mots, c'est pas mon jeu de mots, c'est
ouais,
ton
mais
jeu de mots.
Pourquoi tu acknowledges mes shit?
Parce que j'étais jaloux. C'est-tu juste moi ou Nia Jax et Becky, j'ai plus aimé ça que Rhea Ripley puis Ivy Neal?
Ouais, mais Ivy Neal, elle est pas prête. Là. Elle était pas prête. Ça, okay. Elle est pas prête. On l'a vu à Laval. On les a vus refaire leur match backstage avec elle. Ça s'en vient.
Seth Rollins et Drew McIntyre, j'ai adoré le match. J'ai adoré, tu sais, que Priest vienne encore pour cacher in, puis qu'il arrive toujours quelque chose. Pour vrai, la finale de Rush, je l'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Shout-out à notre Québécois Matt Menard, qui a fait les commentaires pour le premier match du pay-per-view, World's End. Ça, c'est très, très cool. Et parlant des EW, ben, je pense qu'il faut mettre dans nos coups de cœur, Kev, le Continental Classic. Ça a été un excellent tournoi, là.
Oui, ça a été un bon tournoi. Je pense pas que c'est le niveau G1, par exemple. Mais ça a été un excellent tournoi. Je suis pas fan du fait que ça a fini en triple threat match.
Ça a fini à single?
Non, mais le côté gold, je pense, ça a fini sur triple threat.
Ou
bleu, whatever, là.
Oui.
C'est ça. J'ai trouvé ça un peu lazy comme booking. Sinon, oui, c'est un très bon. Je trouvais ça difficile à suivre sur Dynamite et Collision. Puis là, c'est moi qui ai bibi-lala. C'est moi qui ai bibi-lala parce que Collision, je suis moins porté à l'écouter parce que c'est le samedi. Mais, tu sais, si tous les matchs avaient été sur Dynamite, ça aurait donné une coche de plus, selon moi. Puis c'est quand même ton show que les gens regardent le plus. Tu sais, t'as la moitié des gens qui voient pas l'autre moitié du tournoi. C'est quelque chose qui pourrait travailler pour l'année prochaine.
Attends, je vais être-tu d'autres coups de cœur?
Le match Seth Rollins contre Drew McIntyre, jusqu'au pin où le gars met les pieds de Seth sur la corde, c'était un bon match. Je trouve que Drew est là d'un assez imbécile, là. On peut tirer là dans le milieu du ring puis repin là. Non, ça va à l'extérieur du ring puis il se fait catch comme une bitch. Mais
moi, j'ai aimé ça parce que il pensait vraiment l'avoir gagné puis c'est comme si les fils s'étaient touchés. C'est un psychopathe, le gars. Les fils se sont touchés. Il a pas pensé logiquement. Ça fit avec le personnage, je trouve. T'avais-tu d'autres coups de cœur?
Ben, sinon, tu sais, il y avait pas vraiment de Raw pis de SmackDown parce que c'était les best-of.
La réponse peut être non, là.
J'essaie juste de voir dans ma tête vite. Tu sais, à Dynamite, c'était pas les, à part Swerve, la montée de Swerve. Il y a pas grand chose à Dynamite ces dernières semaines qui m'ont, on peut-tu aller sur les avertissements?
On peut aller sur les avertissements.
OK, fait que mettons là, on jase là, OK?
Ouais.
Faire des matchs pour Orange Cassidy, c'est quelqu'un fait une entrevue, il rentre, puis c'est la même formule à chaque semaine. C'était le fun deux fois, mais faites pas ça à chaque calice de semaine, là. Un peu de créativité.
J'ai deux affaires avec Tony Khan.
Son chapeau?
Non. J'ai trois affaires avec Tony Khan de base. Tu veux être là, le chapeau. Il a amené une nouvelle ceinture à Ring of Honor.
Oh, oh.
Il a amené une ceinture télévision féminine. Parce qu'on le sait que c'est ce que Ring of Honor a besoin. Ou AEW. une nouvelle ceinture. Parce que là, présentement, là, on a le titre de Ring of Honor, on a le titre pur, on a le titre télévision, on a les titres par équipe, on a les titres trio, on a le championnat féminin et le championnat féminin télévision. Il n'y en a pas trop, hein? L'autre chose, en conférence de presse, il a dit que il voulait... il dit, dans le fond, qu'il continuait à se battre contre la WWE pis qu'il était jamais pour arrêter de se battre parce qu'il se battait pas juste pour lui. Il se battait pour tous ceux qui ont perdu une bataille contre Vince. Puis là, là, il a nommé Jim Crockett de Jim Crockett Promotion.
Eh hey boy!
Puis il a nommé Ted Turner de la WCW. Alors, hey Tony boy. S'est rendu le représentant de tous ceux qui sont... qui ont affronté Vince et qui ont perdu. C'est ça, le Tony Khan. Là. J'ai bien de la misère avec ce narratif-là. Fais ta propre bataille à toi. Là. Commence pas à vouloir être le représentant de quelque chose qui n'existe plus. Tabarnouche!
Ça me fait rire, ça.
Hein?
Ben, ça me fait rire.
Ben, je le sais.
Tu te prends pour qui, man?
Ben, tu te prends pour qui, man? C'est exactement ce que je me suis dit moi aussi. Tu te prends pour qui? J'ai aimé... Je l'ai mis dans les avertissements, mais en même temps, ça va pas vraiment dans les avertissements, mais c'est parce que je suis habitué de mettre ça dans les avertissements. Triple H, qui a dit que pour le preview special qui va avoir lieu jeudi sur Peacock, il était pour avoir un major announcement.
Yo, ce gars-là, c'est un malade, man.
Ça m'a vraiment fait rire. Parce qu'habituellement, on met les major announcements dans les avertissements parce que ça vient de Tony Khan.
Ouais, mais Tony fait pas ça Triple H fait pas ça chaque semaine. Ah, on a même pas mis The Rock qui revient comme coup de cœur, mais oui, on en a parlé.
Plein de ben, fois, on en a parlé.
Ouais, je m'excuse. Je m'excuse. Continue.
Parce que dans le fond, il va y avoir un gros spécial jeudi à 8h sur Peacock. Je suis pas sûr qu'on va avoir ça, nous, ici au Canada, là. Ou peut-être à travers le network. Le web, là, la version en ligne du network. Mais CM Punk est là, et puis on va faire des annonces. C'est comme un talk show ou un show quelconque, et puis il va y avoir quelques annonces. Donc, ça va être peut-être newsworthy. Voyons voir si ce qui va arriver à ce niveau-là. Et moi, c'est les avertissements de G.
Okay. T'en as-tu d'autres? Non, Double G.
Le quiz de notre ami Double G. Premièrement, il nous souhaite une bonne année 2024,
Ken. Okay. On a souhaité bonne année aux gens?
On a souhaité bonne année au début, où on a été ingrats?
Ben, on n'a pas été ingrats.
On va leur souhaiter à la fin. Bonne année, tout le monde.
Ouais.
Bonne année. Bien content de vous retrouver pour une autre année aux Antipodes. Mais t'as raison, on aurait dû le faire au début.
Non, on n'aurait pas dû.
Mais t'étais malade. Pis...
Je suis encore malade, man. Je te dis, je suis sweaty balls là. J'ai chaud là. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, man.
Puis tu sais qu'on a Wrestle Kingdom à écouter.
Ouais, c'est
qu'on
pour a ça que je vais aller me coucher directement.
Qu'on a un keybook à faire là.
Ouais, me coucher directement après.
Ça commence à 2h30 du matin heure de l'Est.
Ouais, mais moi je vais commencer, je pense à 3h, comme ça je vais pouvoir skipper les. Il y a beaucoup de on-cam là.
Ouais.
À Wrestle Kingdom, fait que moi les on-cam je vais les skipper là.
Je reste à faire la même chose que toi.
Ben ouais,
donc, Double J qui nous souhaite une bonne année et qui nous a fait réaliser qu'on ne l'avait pas souhaité aux gens.
Bonne année, Double J.
Quelle serait votre résolution du nouvel an? Quelle serait votre résolution du nouvel an à LA Knight entre remporter un titre en 2024 ou tenter de rester over et pertinent auprès des fans pour l'année au complet?
Et moi, ça serait s'améliorer au micro.
Oui, mais c'est pas ça la question.
Mais ça va être ça ma réponse.
Moi, parce que moi, je vais jouer ton jeu, Jérôme. Moi, je vais y aller avec rester over et pertinent auprès des fans pour l'année au complet. Qui est beaucoup plus difficile que juste gagner un titre. Quel est le type de match que vous aimez le moins entre un gauntlet match ou quelque chose sur un pole match?
Moi, j'aime bien les quelque chose sur un pole, là. Je sais que les gens, ils hate, là. Mais quand il y a quelque chose sur le pole, ça me fait rire. Fait que, qui a quelque chose sur le pole?
Moi, je vais y aller... aimer le moins, je vais y aller avec quelque chose sur le pôle.
Non, mais quand le match, là, c'est interminable.
Ben oui, mais des fois, ça peut faire de la très bonne lutte. Rappelle-toi le gauntlet qu'on avait eu qui avait duré notre émission complète à Raw. Après ça, il y avait eu un gauntlet d'une heure, si je me trompe pas, puis on avait eu le gauntlet au complet. Ça avait fait de l'excellente lutte. Chose que t'as pas toujours dans un quelque chose, on n'a pas au match. Avec le discours du Rock à Raw mentionnant le Head of the Table, quel serait l'adversaire de Roman pour le titre à WrestleMania? Le Rock ou Cody? Ben, on en a parlé au début, mais si t'avais à dire un des deux, tu dirais qui?
Cody.
Moi, je vais aller avec The Rock.
Mais moi, je pense que ça devrait être The Rock.
Ben, c'est pas ça que tu disais au début. Viens pas me dire non. ça à la fin, là. Hey,
non,
allez
moi,
chez
pense
vous,
que, pense
je vais te donner de la fièvre.
Je pense que le biggest match, c'est The Rock contre Cody, contre Roman Reigns. Le biggest match. Par contre, pour faire suivre l'histoire, c'est ce que j'ai dit au début.
T'es bien mieux de pas changer d'idée, toi. Hey, c'est déjà tout pour les antipodes de ce début janvier 2024. On vous rappelle qu'on revient avec la formule plus régulière avec Fred Poirier à nos côtés dès la semaine prochaine. Pour les abonnés Patreon, ben on va avoir demain, donc dans la journée de jeudi, on va avoir le Patreon sur Wrestle Kingdom, le plus gros show de l'année. Le plus gros show de l'année au Japon avec New Japan Pro Wrestling. Donc, c'est le temps de vous abonner. Si vous voulez entendre ça, d'ailleurs, on va avoir plein de nouveaux contenus pour le mois de janvier. Questions du public, retour dans le passé. On va avoir des entrevues également. Donc, abonnez-vous. Faites-vous un cadeau du nouvel an, une belle résolution 2024 de vous abonner à notre Patreon Keybook. Je pense pas que vous allez le regretter. Kev, t'as-tu toujours à ajouter?
Bye.
OK, ben en mon nom et celui de Kevin Raphaël, on se dit à la semaine prochaine. C'est un rendez-vous!